Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, oui, des histoires. Avec Compte à rebours, c'est une émission de contes d'histoires. Mais depuis la semaine dernière, on a commencé à se pencher sur un livre qui s'appelle « La faute de l'orthographe ». Et là, c'est la suite, donc deuxième partie. Oui, attention, hein, pas la faute d'orthographe, non, la faute de l'orthographe. On se demande souvent comment respecter l'orthographe, demandent les auteurs qui sont deux Belges, Arnaud Hud et Jérôme Piron. On se demande souvent comment respecter l'orthographe, mais l'orthographe est-elle respectable ? C'est un sujet qui déchaîne les passions. En fait, ils remettent un peu en question le dogme orthographique. On prend conscience avec eux que l'orthographe française, en plus d'être un vrai casse-tête, est tout sauf logique. Et surtout que ses racines sont plus fantasmées qu'on veut bien l'admettre. Donc voilà, et ils posent la question de la sacralisation presque de l'orthographe, hein, parce que le français est quand même une des langues, au niveau de l'orthographe, la plus compliquée. Et un grand nombre de nos règles qui aujourd'hui sont sacralisées viennent d'erreurs de moines copistes du Moyen-Âge, qui étaient mal éclairés, mal chauffés. Et donc, s'ils ne voyaient pas bien, ils tremblaient, vous voyez. Alors, donc, il y a les lettres doubles. Donc, bon, ils posent cette question. Et pourtant, quand il y a des réformes, eh bien, ça ne change pas, on résiste. Ce sont même nous qui résistons, puisque on n'applique pas la réforme. Alors, maintenant, on va continuer pour essayer d'y voir plus clair sur cette faute de l'orthographe. On va poser les questions suivantes. Qui détient la norme de l'orthographe ? De quoi a-t-on peur pour changer la norme ? Est-ce que vraiment le niveau baisse ? Et ainsi de suite, jusqu'à épuisement, nous aurons donc une très bonne émission, tout à fait bien orthographiée. Et en musique. Qui détient la norme ? L'Académie française ? Elle a toujours affirmé qu'elle enregistrait l'usage, qu'elle consignait les pratiques orthographiques qu'elle observe chez les gens. Mais elle n'a jamais prétendu décider pour eux. Pourtant, aujourd'hui, nous faisons encore souvent de l'Académie la référence en matière d'orthographe. Donc, l'Académie se réfère à l'usage des gens et les gens se réfèrent à l'Académie. On dirait bien un serpent qui se mord la queue, ça. Hein ? Et puis, même quand l'Académie se décide, en 1908 par exemple, saviez-vous qu'elle avait proposé qu'on se débarrasse des pluriels en « ou » au UX, pou, hibou, caillou, chou, oui, vous connaissez. Sans succès, on les utilise toujours, on les apprend toujours, on les corrige toujours dans la dictée. Alors, quelle est la norme si ce n'est pas l'Académie ? Le dictionnaire ? Oui, mais lequel ? Vous savez que l'orthographe de certains mots varie d'un dictionnaire à l'autre ? Avant 1990, 3 à 4 000 mots s'écrivaient différemment entre le Larousse et le Robert. Depuis, les dictionnaires se sont adaptés. Ils proposent parfois plusieurs orthographes pour un même mot. La norme des dictionnaires est donc plus relative qu'on ne le croit. Alors, qui détient la norme ? L'État français. En 89, le gouvernement de Michel Rocard a créé le Conseil supérieur de la langue française. Un conseil composé de spécialistes, de linguistes, qui doit, comme son nom l'indique, conseiller ou proposer des réformes, mais n'a jamais eu pour mission d'imposer quoi que ce soit. Et alors, qui détient la norme et les correcteurs orthographiques des ordinateurs ? On leur fait tous confiance, mais personne ne sait vraiment à qui eux-mêmes se réfèrent. Ou encore Google. Google renseigne sur la norme, mais ne la choisit pas. Il oriente l'utilisateur vers les formes les plus répandues statistiquement. Pas parce qu'il a envie que vous écriviez sans faute, mais si vous ne trouvez pas la page que vous cherchez, vous ne cliquez pas, et si vous ne cliquez pas, Google ne gagne pas d'argent. Alors qui décide de la norme ? En fait, personne. C'est-à-dire, en réalité, tout le monde. Nous. C'est vrai que si on propose un nouveau code graphique, parce qu'il ne s'agit que de ça, un code graphique pour écrire des sons, ça provoque parfois quelques réticences. Mais exactement, de quoi a-t-on peur ? D'abord, on a le sentiment qu'on s'attaque à notre héritage. Si on prend par exemple les marques étymologiques qui viennent du grec ou du latin, PH, TH ou certaines consonnes doubles, y toucher, ce serait s'en prendre à notre patrimoine. D'une certaine manière, se couper d'une partie de l'histoire de la langue. Mais malheureusement, cette histoire est largement fantasmée. Pourquoi, par exemple, a-t-on conservé uniquement les consonnes étymologiques grecques et latines ? Parce que ça fait classe. Parce qu'on aimerait croire que le français ne descend que de l'Antiquité, mais on a évacué sans hésiter les consonnes étymologiques des langues germaniques, de l'arabe ou de l'italien. Pourtant, ces trois langues forment 35% des emprunts du français. Bon, ceci dit, il existe des raisons de conserver des traces étymologiques. Par exemple, pour distinguer les homophones. Vous savez ce que c'est, des homophones? Des mots qui se prononcent de la même façon, comme « sang »,« sang », »,« sang », »,« sang » et « sang ». « Sang », la centaine, « sang », le sang qui coule, « sang », eh ben, sans rien, par exemple, « sang », »,« s'en aller », et « sang », tu le sens ? Tu le sens ? Oui. Alors, en conservant les traces du latin et du grec dans les mots, on les distingue. Sang, C-E-N-T, vient de sanctum, en latin. Sang, avec un G, vient de sanguin. Cela dit, la plupart du temps, le contexte quand même suffit à éviter ce genre de confusion. À l'oral, on comprend très bien. Si j'écris, par exemple, j'ai loué le Seigneur, personne ne va s'interroger sur le prix du loyer. En plus, le choix des consonnes étymologiques qu'on a gardées, ou parfois même réintroduites, a été fait sans cohérence ni volonté de système. Le mot nénuphar vient de l'ancien arabe nilufar, qui s'écrit avec un F. Il n'y a aucune raison de lui mettre PH. C'est parce qu'un académicien s'est trompé, l'a confondu avec nymphéa au début du XXe siècle, que maintenant nénuphar a un PH grec. Alors que feta, qui lui vient du grec, est un fromage grec en plus, hein, on l'écrit avec un F. Il faudrait peut-être revenir à l'étymologie, en la respectant. Style s'écrirait avec un I, style, et fantôme avec PH. Est-ce qu'on peut sérieusement accuser l'italien ou l'espagnol de souffrir d'un déficit culturel ? En espagnol, on écrit telefono sans PH. Avec un F, téléphono. Ça n'a jamais empêché les Espagnols de faire de l'étymologie. Et de téléphoner non plus, je suppose. Et c'est pareil pour les consonnes doubles. En espagnol, aprender, la grammatica, en el colegio. Aprender, un P, grammatica, un M, colegio, un L. Imaginons en français, sans consonne double. Voyez le bouquin ? Apprendre avec un P, la grammaire avec un M, au collège avec un L. Oui, souvent on a du mal à changer d'orthographe, on s'attache à ces choses-là. On y est d'autant plus attaché que tout ça remonte à l'enfance et convoque de bons et de mauvais souvenirs. Mon institutrice écrivait encore « clé » avec un F. Elle avait dessiné au tableau une clé à la place du F pour nous le faire retenir. Et ça, c'est un bon souvenir. C'est légitime, avec ce qu'on a tous vécu, de tenir à son orthographe. En fait, c'est le changement qui pose problème. Le cerveau a été encodé avec une forme. Mais si on avait appris une autre forme, on y serait tout autant attaché. En plus, il n'a jamais été question de demander à qui que ce soit de changer d'orthographe. Vous pouvez continuer à écrire nénuphar avec PH si vous en avez envie. Les réformes comme celle de 90, par exemple, proposaient simplement d'enseigner les nouvelles formes à ceux qui n'ont pas encore d'orthographe, les enfants ou les adultes en formation. Progressivement, une forme aurait remplacé l'autre sans difficulté. Ce qui fait la richesse de la langue française, c'est surtout le vocabulaire, la syntaxe, la morphologie, la ponctuation. Bref, tout ce qui rend la langue le plus complexe. Mais il ne faut pas confondre ce qui est complexe et ce qui est inutilement compliqué. Beaucoup de gens défendent une orthographe traditionnelle pour de bonnes raisons, parce qu'ils pensent honnêtement défendre la langue française, et c'est tout à fait noble. Mais l'orthographe, ce n'est pas la langue. C'est l'écriture de la langue. Un puriste, c'est quelqu'un qui veut écrire comme il y a 150 ans, c'est tout. En fait, il veut qu'on écrive tous comme il y a 150 ans, et pour toujours. Et si faire évoluer l'orthographe, c'était défendre la langue, parce que ça la rapproche de ceux qui la pratiquent. Il existe encore une raison de défendre une orthographe compliquée, le sens de l'effort. Eh oui, comme c'est compliqué, c'est exigeant, et cette exigence apprend à nos enfants à se dépasser. Les gens ont l'impression que si on simplifie, on va faire moins d'efforts. Mais on ne va pas faire moins, on va faire mieux. Évidemment, c'est difficile de dire à ceux qui ont souffert qu'ils ont souffert pour rien. Mais tout le temps de mémorisation mécanique, d'exceptions annonées, chou, hibou, caillou, tout ça, tout ce temps pourrait être converti en temps de découverte, de pratique, de réflexion ou d'histoire de la langue. La simplification de l'orthographe constitue en fait un nivellement par le haut. Et oui, parce que, on le dit, le niveau baisse. Bon, ça fait 6000 ans qu'on dit ça, le niveau baisse. Oui, mais les chiffres prouvent que le niveau d'orthographe n'a fait que baisser, en tout cas depuis les années 80. Ma grand-mère, elle a arrêté l'école à 14 ans et elle avait une orthographe impeccable. Oui, mais ce que t'oublies, c'est que ta grand-mère, elle faisait pratiquement que de l'orthographe à l'école. Et si le niveau baisse, c'est peut-être parce que on consacre de moins en moins de temps à l'orthographe pour faire autre chose. En plus, pour enseigner cette orthographe, on a inventé un outil encore plus compliqué que les problèmes à résoudre, la grammaire scolaire. C'est dingue. Tout le monde pense que la grammaire scolaire permet de bien comprendre comment la langue fonctionne. Mais elle n'est même pas scientifique. Imagine Albert Einstein, un cher universitaire qui annonce E égale MC2, sauf, et bam, 20 pages d'exception. Tu vois, la grammaire scolaire, c'est une méthode d'enseignement, c'est pas de la science. Ça ne sert qu'à éviter de faire des fautes. C'est tout. Les scientifiques, eux, font de la linguistique, c'est différent. Ils étudient la langue comme un biologiste étudie les êtres vivants en observant. La linguistique, c'est pas quelqu'un qui te dit comment écrire sans faute, c'est quelqu'un qui t'explique comment la langue fonctionne. Par exemple, combien y a-t-il de voyelles en français ? Il y en a 5. Eh non, en fait, il y en a 16. Eh oui, t'oublies le « et », le « est », le « en », le « yan », le « ou », le « e ». Et si tu les oublies, c'est parce qu'à l'école, t'as fait pratiquement que de l'écrit. Mais la langue, elle est d'abord orale. Si on veut revenir au niveau d'orthographe de nos grammaires, la question c'est qu'est-ce qu'on laisse tomber ? Les sciences, les langues, l'informatique ? T'es en train de me dire que si le niveau baisse, c'est pour de bonnes raisons ? Ben ouais, peut-être. À l'époque, on se demandait comment écrire sans faute. Mais on ne se demandait pas souvent pourquoi. Moi non plus, je ne me demandais pas souvent pourquoi. Je me demandais surtout combien. Combien de points j'allais perdre. C'est vraiment pas le fait de ne pas être compris qui me préoccupait, c'est souvent pour des points ou pour satisfaire mes parents que je flippais. À cet âge-là, je savais ce qui rendait une faute plus grave qu'une autre. C'est ce qu'elle coûtait en points. La dictée, c'est un peu comme si, pour t'apprendre à conduire, l'instructeur de l'auto-école te collait des contraventions. Le jour où le code de la route crée des accidents, on l'adapte. T'imagines une dictée où il n'y aurait pas moyen de faire de faute, où tout s'écrit comme ça se prononce, où il n'y a pas de consonne muette, pas de consonne double, où il n'y a qu'une seule manière d'écrire chaque son. Une sorte de dictée transparente. Oh, il y aura toujours moyen de faire des fautes. Parce que finalement, à quoi ça sert une dictée ? À part faire des fautes. Tu savais que dans certains manuels de français, encore aujourd'hui, il est mis que l'enfant doit être dans un état de vigilance orthographique permanent. Donc, en gros, il serait dangereux de ne pas constamment surveiller son orthographe. Mais si tu surveilles constamment ton orthographe, ton cerveau, il est plus disponible pour rien d'autre. On ne peut pas simultanément penser à ce qu'on veut dire et à la manière de l'écrire. C'est vrai que beaucoup d'enseignants utilisent aujourd'hui d'autres méthodes que la dictée traditionnelle pour enseigner l'orthographe. On a même développé des trésors d'ingéniosité pédagogique pour enseigner l'orthographe. Mais si l'orthographe elle-même ne change pas, alors, on dépense peut-être beaucoup d'énergie pour enseigner quelque chose qui n'en vaut pas la peine. En plus, les profs de français ont souvent reçu la formation nécessaire pour relativiser l'orthographe, mais ils sont parfois obligés de rester intransigeants. Les parents veillent, ils ont peur de passer pour des incompétents. On a fait d'eux les curés de la langue. Bon, faut dire que il y a des intégristes de l'orthographe qui braillent, hein, comme par exemple, écoutons-les, Alain Finkielkraut. Il dit, c'est vrai, à propos de la réforme, c'est vraiment changer la langue en effaçant les traces comme s'il ne devait rien subsister du passé dans le présent. C'est encore une fois une émeute des vivants contre les morts. Ah oui, il parle bien. Raphaël Enthoven. La réforme de l'orthographe, c'est la diminution du langage. Il fallait être inculte pour promouvoir une telle initiative. Elisabeth Lévy. Toutes ces exceptions, il me semble que ça apprend à penser, tout simplement. Ah oui ? François Bayrou. On ne facilitera pas le travail des enseignants de français ou des professeurs des écoles en introduisant dans les esprits des élèves l'idée que ces règles qu'ils essaient de transmettre sont discutables. Ah non. Et pour terminer, Bernard Pivot, bien sûr, et vous vous souciâtes même de l'accent circonflexe, virgule. Et vous vous souciâtes même de l'accent circonflexe. À quoi sert l'orthographe ? Attention, la question de l'orthographe touche aussi celle de l'accès à l'emploi. Dans ces cas-là, aujourd'hui, on sait ce que coûte une faute. Et vous imaginez si ce n'est pas votre langue maternelle ou si vous êtes dyslexique. On utilise souvent l'orthographe pour disqualifier une pensée. Sur Internet, on lit régulièrement des commentaires du genre « Va d'abord soigner ton orthographe et après tu te permettras de donner ton avis. » Donc, on interdit à quelqu'un de s'exprimer à cause de son orthographe. On est face à une forme de discrimination que tout le monde trouve légitime, à droite comme à gauche, chez les conservateurs comme chez les progressistes. C'est quand même un sujet qui a mis d'accord le Canard Enchaîné et le Figaro. Même ceux qui subissent cette discrimination la trouvent légitime. Et cela n'est possible que si cette orthographe est sacrée. Le bon usage devient la Bible. Tout ce qui s'y trouve est parole d'évangile. Si c'est dans Bécherel, ainsi soit-il. Simplifier l'orthographe, ce serait appauvrir la langue. Ce qui veut dire lui faire perdre de la valeur. Mais de quelle valeur parle-t-on ? On ne parle pas de la valeur de l'orthographe ici, on parle de la valeur tout court. Quand vous faites une faute, on ne juge pas votre orthographe. On vous juge à vous sur la base de votre orthographe. De quoi a-t-on envie ? Est-ce qu'on veut un outil pour pratiquer la langue ou un objet de prestige ? Un enseignement d'excellence pour que cet outil puisse être maîtrisé par tous ou une compétition sur des exceptions ? Finalement, est-ce qu'on veut enseigner ou inculquer l'orthographe ? Le marteau est un outil percuteur servant à aplatir une plaque de métal ou à enfoncer un clou. Il agit par inertie, augmenté par la longueur du manche et celle du bras manipulateur. Il est composé d'un engroit, d'un œil, d'une table et d'une panne qui en constitue la tête et d'un manche. Il remonte comme le couteau à la plus ancienne préhistoire. Imaginez que ça s'arrête là, la description de l'outil. Voilà ce qu'on fait avec l'orthographe. On passe des heures et des heures à décrire l'outil. On vous demande de temps en temps d'enfoncer un clou, mais on ne vous demande pratiquement jamais ce que vous avez envie de construire. Quand un outil n'est plus au service de l'homme, mais que c'est l'homme qui est au service de l'outil, cet outil a alors dépassé ce qu'on appelle son seuil de convivialité.
Siamo tutti fratelli d'amore di libertà. Bianchi, neri, rossi, gialli, siamo tutti insieme per l'eternità. Vita, 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 balla, balla per noi.
Voilà, on a terminé avec ce livre aux éditions textuelles, La faute de l'orthographe. Ben oui, bon, je crois que la semaine prochaine, on retrouvera encore des histoires, à moins que je tombe à nouveau sur un bon livre, on verra. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Compte à rebours. Marco, ciao.